Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.
Bien le bonjour chez vous et merci d'être au rendez-vous hebdomadaire de ce temps d'antenne. Au programme, un retour sur le fonctionnement des cliniques juridiques et un décryptage avec notre reporter Christelle Yesso. Puis le bilan de la Semaine nationale de la sécurité routière à Daoukro. Installez-vous confortablement, nous démarrons maintenant.
Panorama des régions. Panorama des régions pour un tour d'horizon des faits marquants toutes les semaines avec nos journalistes en région.
Une fois de plus, le plaisir de vous retrouver est immense et comme je vous le disais à l'entame de cette émission, nous faisons retour sur le fonctionnement des cliniques juridiques. Un reportage à suivre maintenant sur Radio de la Paix. A tout de suite.
Radio de la Paix.
Reportage. La lutte contre les violences basées sur le genre en VBG en Côte d'Ivoire progresse. Selon les statistiques de 2023, plusieurs dispositifs ont été mis en place pour permettre aux victimes et aux témoins de signaler ces actes de violence. Cependant, l'aspect juridique est souvent laissé de côté, bien que de nombreux cas nécessitent une action en justice. C'est dans ce cadre que l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire, AFJCI, a mis en place la clinique juridique. Qu'est-ce que la clinique juridique et comment œuvre-t-elle à la lutte contre les violences basées sur le genre ? Élément de réponse dans ce reportage de Christelle Yesso.
Moi, je suis le genre de père un peu à l'ancienne. J'ai connu ta mère avant d'avoir une vie. J'ai eu un garçon, mais dans ma tradition, la vraie bénédiction, c'est d'avoir une fille.
Tout alors, comme une clinique médicale, la clinique juridique est un établissement où l'on vient recevoir un diagnostic ainsi que des conseils et orientations. Installée au siège de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire, Corinne Vanier, membre de l'association et spécialiste des questions de violence basées sur le genre, nous y reçoit et nous précise le rôle de cette structure.
La mission de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire, c'est de promouvoir les droits de la femme, mais surtout de faciliter l'accès à la justice de toutes les populations, faire en sorte que l'accès à la justice soit une réalité pour tous en Côte d'Ivoire. Quand une population, une personne a un problème de droit, ça peut être un problème de mariage, ça peut être un problème de succession, ça peut être un problème d'état civil, ça peut être un problème de terre. Généralement, elles ne savent pas qu'est-ce qui est prévu par la loi, comment s'y prendre pour pouvoir revendiquer leurs droits. Donc quand elles viennent à la clinique juridique, on leur donne l'information juridique en lien avec ce que les tests ont prévu. Et une fois qu'elles ont l'information juridique, quand elles veulent être accompagnées, maintenant on va déployer tout le mécanisme en opposition pour pouvoir les accompagner.
La clinique juridique offre principalement deux types d'assistance, l'assistance juridique et l'assistance judiciaire.
L'assistance juridique qui consiste à leur donner l'information juridique dans le cadre d'une consultation juridique. Dans le cadre de l'assistance judiciaire, généralement ce sont des juristes qui animent les cliniques juridiques. Donc des juristes membres de l'association ou pas, ou bien membres d'organisations partenaires qui constituent les équipes des cliniques juridiques. Et ce sont ces personnes-là qui généralement accompagnent les justiciables dans le processus.
Le suivi juridique proposé par la clinique est totalement gratuit grâce au financement de bailleurs. Avec seulement 1000 francs par an, toute personne, homme comme femme, peut recourir à la clinique juridique autant de fois qu'elle en a besoin. Cependant, la capacité d'assistance dépend des ressources disponibles et répond à certains critères selon les projets.
Il faut être femme, parce qu'on privilégie les femmes. Il faut être vulnérable. Donc la vulnérabilité, c'est défini soit par l'handicap ou bien par l'âge et puis le critère de l'indigence.
L'association traite divers cas de violences basées sur le genre. Corinne Vanier nous en cite les plus récurrents.
On a beaucoup de cas de VBG et quand je dis des violences basées sur le genre, je vais spécifier en fonction des typologies. On a des cas de viol, on a des cas de déni des ressources d'opportunité et de service, on a des cas de maltraitance psychologique et émotionnelle. Donc voici les trois principaux en matière de violences basées sur le genre. Et c'est après qu'il y a les cas de mariage forcé, il y a les cas d'excision. Après, on a beaucoup de cas avancés. On a également des cas de droit du travail. On a beaucoup de problèmes d'état civil.
Cette association, vieille de plus de 40 ans, a réussi à étendre son dispositif de soutien juridique et judiciaire à toutes les grandes régions du pays. on dénombre 12 cliniques juridiques réparties comme suit. 3 à Abidjan, Plateau, Yopougon et Abobo. 9 à l'intérieur du pays, Boaké, Korogo, Bondiali, Abengourou, Bondoukou, Giglo, Daloa, Mans et San Pedro. L'association dispose également d'un camion caravane constitué en clinique mobile pour atteindre les zones les plus reculées. Pour comprendre le mode d'action des cliniques juridiques en zone rurale, nous sommes entrés en contact avec la directrice locale de la clinique juridique de San Pedro qui couvre également les régions du Boklé et de la Nawa. Fofana Maïmouna nous partage son expérience.
De plus en plus, vu que les sensibilisations aussi des cliniques juridiques s'étendent à toutes les couches de la population, que ce soit les autorités, que ce soit les leaders communautaires, les leaders religieux, et puis les hommes eux-mêmes, ils comprennent de plus en plus, on dira, la question des violences basées sur le genre. Et la plupart des cas que nous recevons, généralement, ce sont les hommes même qui conduisent les femmes vers nous, ou bien leurs filles, ou bien leurs protégés, ou une assistance juridique et judiciaire.
L'une des violences exercées sur les femmes dans la localité se trouve être le refus de l'accès à la terre.
Dans les communautés, vous allez rencontrer des personnes qui sont assez sceptiques à la question de l'accès de la femme à la propriété foncière. Mais quand on explique en long et en large et puis de façon assez accessible les textes juridiques, on se rend compte que ce n'est pas forcément pour arracher la part des hommes. C'est juste que la part des femmes leur revient de droit. Donc il faut leur donner ce qui leur revient de droit. Donc, ça sera, on va dire, dans le temps que la compréhension et puis l'acceptation de ces choses vont se faire.
Les jeunes filles de la ville de San Pedro et des environs sont une cible privilégiée de l'association qui n'hésite pas à les orienter.
On reçoit de plus en plus les jeunes filles, que ce soit déscolarisées comme scolarisées, qui sont souvent victimes de certaines réalités dont elles n'arrivent pas, on va dire, à échanger en famille ou à se confier ou bien en tout cas à comprendre la démarche à suivre. Donc elles viennent tout naturellement se renseigner. Même ce matin, on en a reçu.
Et celle qui arrive aujourd'hui, elle cherche à connaître quoi?
C'était un cas de jeune. Donc elle voulait se renseigner sur les droits, comment est-ce que ça devait se passer, comment est-ce qu'elle devait se comporter et son ressenti en fait par rapport à la chose. Donc on a fait l'écoute juridique, on lui a apporté l'assistance juridique qu'il faut, on lui a expliqué aussi comment est-ce que l'assistance judiciaire va se dérouler et puis par la suite on l'a référé pour une prise en charge psychosociale au niveau du centre social.
Du côté de l'ouest du pays, précisément à Mans, les cliniques juridiques se trouvent être de véritables alliés pour les femmes. Suivons le témoignage de Yao Aïssa, qui est aujourd'hui une promotrice des actions de la clinique juridique dans son entourage. Elle a souhaité cependant garder l'anonymat sur le cas pour lequel elle est entrée en contact avec la clinique.
J'avais une audience en 2013 et je devais demander permission vu que j'étais en fonction à Abidjan pour l'audience. Et c'est comme ça que mon patron m'a dit, mais est-ce que tu peux pas voir la clinique juridique pour que la clinique juridique t'oriente? C'était la première fois que j'entendais ce thème et donc je me suis rapproché. Effectivement, j'ai été bien accueilli. La directrice, Mme Koulibaly, en son temps, m'a écouté et puis elle m'a donné des orientations. Elle m'a renvoyé à d'autres personnes qui m'ont écouté aussi et puis bon, comme ça que j'ai pu aller à mes audiences paisiblement parce que j'étais bouleversée. Et quand je me suis rapprochée de la clinique juridique, vraiment j'ai été soulagée parce qu'un avocat en Côte d'Ivoire, ça coûte très très cher. Généralement, ce que le citoyen lambda connaît, là, quand on parle de clinique, c'est médical. Moi, en tout cas, je fais la promotion de la clinique juridique. Et même, elles nous ont partagé dans ce temps de blog une grande sensibilisation des livres sur le droit. Et ce livre-là m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Je le garde précisément jusqu'à aujourd'hui.
Dans cette région, on constate de nombreux cas de problèmes de succession. Koulibaly Marie nous explique comment la clinique juridique de Mans l'a aidé alors que sa belle-famille tente de lui arracher les biens de son défunt mari.
J'ai perdu mon mari. Donc, faire mes papiers, arriver à bien la banque, ils m'ont dit que moi je suis qui pour faire ses papiers. Oui, et pour le coup du défunt. Maintenant qu'il y a sa petite sœur qui a déjà commencé à faire ses papiers, que toutes ses pièces sont ici. Que moi je crois pour prouver que je suis la femme. J'ai dit, ah, mais comment je vais faire? Donc, il y avait une jeune aussi qui est là, qui avait déjà fait aider par la clinique juridique. Il m'a dit, non, il y a la clinique juridique qui est là. Et je suis partie, c'est quand j'ai trouvé la directrice de la clinique juridique. Et sur le champ, je lui ai posé tout le problème. Sur le champ, elle l'a appelé, elle notaire, m'a donné le rendez-vous. C'est comme ça que j'ai envoyé tous mes papiers. Donc, c'est la clinique juridique qui m'a donné un notaire que j'ai actuellement. C'est la même clinique juridique qui m'a donné un avocat. Tout était gratuit. Et moi, je crois. Je n'ai jamais donné 10 francs à la clinique juridique. 10 francs. Jamais donné à la clinique juridique. Le notaire, mais c'est pas combien on le paye, je ne connais pas. L'avocat ne connaît pas plus d'avocat. C'est eux qui font tout.
Grâce à l'engagement des cliniques juridiques, plus de 50 000 personnes ont bénéficié d'une assistance, dont près de 15 000 femmes. Concernant l'assistance judiciaire, plus de 1 200 cas ont été accompagnés en justice avec de nombreuses décisions obtenues. Malgré ces réalisations, de nombreux défis subsistent, notamment les résistances culturelles et la stigmatisation des victimes de violences. De plus, la lenteur des procédures judiciaires et le manque de financement sont des obstacles majeurs. Les victimes abandonnent souvent leurs plaintes en raison des délais, Corinne Vanier explique.
On a en face les pesanteurs culturelles, la stigmatisation des survivantes. On a tout le défi de l'assistance judiciaire parce que même quand nous, on a préparé les dossiers, on a introduit les procédures et qu'en face, on n'a pas d'avocat connu d'office pour le mise en cause, ne peut pas avoir procès. Et c'est le plus grand défi auquel nous avons été confrontés ces dernières années. Donc les procédures qui ont été introduites depuis 2022, il y a plusieurs procédures qui sont encore pendantes devant les juridictions. L'autre défi, c'est vraiment la réparation des victimes, parce qu'on est en matière criminelle, les audiences prennent du temps. Souvent, les victimes sont passées à autre chose, et même lors des audiences, souvent, elles ne comparaissent plus, parce qu'on ne les retrouve plus. L'autre défi, c'est qu'il y a un problème de pérennisation de nos actions parce qu'on est beaucoup dépendant de bailleurs. Et quand on n'a plus de financement de ces bailleurs, on est obligé de maintenir justement ce service minimum qui est peut-être l'orientation. Donc on suscite le besoin chez les populations et puis par derrière, on n'a plus suffisamment de ressources, soit pour maintenir les équipes sur place pour qu'elles puissent suivre les procédures, soit pour payer les frais d'avocat pour les accompagner.
Le gel de l'aide américaine aux ONG, décidé récemment par le président Donald Trump, impacte aussi fortement les activités de l'association. Aujourd'hui, ces activités se trouvent stoppées par manque de financement. La procédure pour le cas de Koulibaly Marie se trouve ainsi interrompue. Elle exprime son désarroi.
Où on doit commencer l'audience derrière la PJ, on peut dire que vraiment, ils n'ont plus les moyens pour m'aider. Parce que les bailleurs de fonds, ils ont dit, ils vont arrêter d'abord pour attendre juste à 3 mois. J'ai dit, mais donc, je fais comment? Je ne sais pas comment, mais ils attendent encore dans 3 mois. Dès dans 3 mois, je suis fatigué. C'est cela aussi, moi, je vais lancer un appel à l'État de Côte d'Ivoire. Parce qu'on ne peut pas arrêter cette unité de vie comme ça. S'il y a des structures qu'on doit appuyer en Côte d'Ivoire ici, là. Ce sont ces gens de structures.
Malgré ces défis, de réels progrès ont été accomplis. Des femmes souvent stigmatisées commencent à dénoncer les violences qu'elles subissent grâce au soutien des cliniques juridiques. Corinne Vanier nous raconte le cas de cette travailleuse du sexe.
Ah, ça, c'était un cas emblématique parce que le procureur nous avait confessé en son temps qu'il a été émerveillé par son audace. C'est pour cela qu'il était curieux de nous accompagner dans cette procédure. Elle a hésité à venir se plaindre parce qu'elle s'est dit, bon, moi, je suis déjà travailleuse du sexe. Comment est-ce que je peux venir me plaindre d'un cas de viol? Alors que la définition du viol, on dit absence de consentement. Donc, si tu n'as pas consenti à un rapport sexuel, ça veut dire qu'il y a viol et il y a une infraction qui est réprimée par la loi. Donc, la dame nous avait été référée par le CRDH. Donc, elle a hésité à venir, mais quand on l'a rassurée, elle est venue. Elle avait peur des préjugés de la police. On l'a accompagnée à la police. On a assisté à son audition. Ensuite, la procédure est arrivée au niveau du procureur. C'est vrai que ça n'a pas été facile d'interpeller la personne parce que c'était quelqu'un qui était dans le force de défense et de sécurité. Donc, ça a mis le temps que ça devait mettre, mais un an après, il a été interpellé et il a été condamné.
La stratégie nationale contre les violences basées sur le genre a été revisée et les ONG, en collaboration avec l'État de Côte d'Ivoire, continuent de travailler sans relâche pour améliorer la situation, rassure Corinne Vanier.
Notre travail, c'est vrai que c'est un travail de fourmi, mais on ressent vraiment l'impact de nos actions sur le terrain. Ce n'est pas uniquement le travail de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire, mais c'est le travail de toutes ces ONG-là qui ont décidé de s'engager dans la chaîne de réponse aux côtés de l'État. Parce que sans l'État, nous ne pouvons rien. Aujourd'hui, si on arrive à partager des données statistiques régulièrement en Côte d'Ivoire, c'est parce que par derrière, il y a eu un travail de sensibilisation à l'endroit des populations. Parce que généralement, les cas de violence basés sur le genre touchent à notre intimité, touchent au privé, au domaine privé, touchent vraiment à notre culture, à notre manière de faire. Donc, ce n'est pas toujours facile pour les populations de parler. C'est tant qu'elles n'ont pas parlé, on peut en faire. Aujourd'hui, quand on regarde les statistiques au niveau des cas d'excision, comment les dénonciations sont rarissimes. Au niveau des cas de mariage forcé, c'est vraiment rarissime. Donc, le travail, c'est d'être toujours au contact des populations pour leur montrer l'intérêt de la lutte. Parce que quand elles n'ont pas compris l'intérêt de la lutte, elles ne peuvent pas s'associer. Donc aujourd'hui, je pense que quand on regarde en arrière, on pense qu'on a fait du chemin.
Même si l'objectif zéro violence basé sur le genre n'est pas encore atteint, des pas importants ont été franchis. Grâce aux efforts de l'Association des femmes juristes dans la lutte contre les VBG, des milliers de femmes retrouvent leur dignité et leurs droits. Et l'espoir d'un avenir sans violence se renforce davantage dans les esprits.
C'était Reportage.
Radio de la Paix.
Place au décryptage. Christelle Yesso, bonjour et merci d'être en studio avec nous pour Panorama des Régions.
Bonjour Mel, ravi d'être avec vous.
Pouvez-vous nous parler brièvement du contexte dans lequel vous avez décidé de réaliser ce reportage ?
Alors, j'ai choisi ce sujet parce que j'ai remarqué que dans les différents cas de VBG dont on entend parler et dont on a connaissance, il n'y a pas vraiment de suivi juridique. C'est vrai que les victimes vont se plaindre au commissariat, mais elles s'arrêtent là. Elles ne vont pas jusqu'au procès. Et c'était important pour moi de pouvoir informer le grand public sur les différentes procédures qu'il y a à suivre, que cela ne s'arrête pas seulement à la simple plainte dans les commissariats et autres.
Qu'est-ce qui, selon vous, explique ce manque de suivi juridique ?
Alors, je dirais que les populations, en plus de la peur, n'ont pas véritablement confiance aux policiers et autres, parce qu'elles se disent que, voilà, ces personnes-là ne font pas suivre leurs plaintes, ces personnes-là, généralement, elles sont accusées. Quand c'est des femmes qui vont se plaindre, on leur reproche toujours, mais toi, tu faisais quoi ? Et puis, on t'a fait ça. Donc, les femmes n'ont pas vraiment confiance déjà en ces policiers-là. Et puis aussi, je dirais que il y a un manque de connaissance. Les gens ne vont pas jusqu'à poursuivre leurs plaintes parce que, justement, elles ne savent pas qu'il y a des procédures qui sont là, qu'il y a des lois dans le pays qui les défendent et elles ne savent pas qu'il y a des possibilités comme les cliniques juridiques pour les aider à comprendre tout ce qui concerne ce domaine-là.
Parlant des cas des policiers, c'est pour dire que c'est pas tout le monde. Il y a des traitements qui sont faits, les plaintes sont suivies et suivent leur cours jusqu'au parquet et tout, mais malheureusement, il faut le dire aussi, c'est le cas, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a certains commissariats où lorsqu'on arrive, des policiers réagissent en demandant justement à la victime « Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi on en arrive là ?» plutôt que de traiter la demande ou la plainte. On poursuit, Christelle. Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué dans le fonctionnement des cliniques juridiques ?
Alors, ce qui m'a marqué, c'est leur proximité avec les populations. Parce que, comme je le disais dans le reportage, les cliniques juridiques sont étendues vraiment dans toutes les grandes régions de la Côte d'Ivoire. On en a 13 maintenant. Dans le reportage, j'ai dit 12, mais dernièrement, elles ont ouvert encore une autre clinique juridique à Béjarville. Donc, ce qui fait monter le nombre à 13. Et il y en a 9 à l'intérieur du pays. Donc, déjà, il y a cette proximité-là avec les populations rurales. Dans le reportage, vous avez pu entendre qu'elles font même des caravanes de sensibilisation assez fréquentes auprès de ces populations-là pour leur expliquer tout ce qu'il y a à savoir sur le droit, sur les lois ivoiriennes. Et on a pu aussi entendre que les personnes qui n'avaient pas les moyens avaient la possibilité de rentrer dans les bureaux, de demander conseil, de se renseigner comme elles pouvaient sans vraiment que ce ne soit un problème, ce qui n'est pas toujours le cas ici à Abidjan. Et donc c'est cette proximité-là avec les populations qui m'a vraiment marquée.
Quelle a été la première étape de votre enquête sur les cliniques juridiques ?
La première étape, c'était d'abord de me rendre au siège de l'Association des femmes juristes, parce qu'il faut le dire, c'est l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire qui a donc mis en place le système de clinique juridique. Et donc, il a fallu me rendre au siège de cette association pour rencontrer les membres de l'association et pour poser toutes les questions qu'il faut pour effectivement comprendre ce que c'est qu'une clinique juridique dans le sens le plus simple possible.
Et donc, clinique juridique, association des femmes juristes de Côte d'Ivoire, j'ai envie de vous demander, Christelle, qui peut consulter les cliniques juridiques? Est-ce exclusivement réservé aux femmes?
Eh bien non, ça a été mentionné, mais peut-être pas largement dans le reportage. Les cliniques juridiques sont consultées par tout le monde. C'est vrai que l'Association des femmes juristes défend la cause des femmes, mais le système de cliniques juridiques qu'elles ont mis en place est ouvert à vraiment tout le monde. Et il faut dire aussi que en dehors des projets qui sont principalement dédiés aux femmes, le système de conseil concernant tout le domaine juridique est vraiment ouvert à tout le monde. Hommes comme femmes, tout le monde peut aller se renseigner. Même pas forcément pour des cas de VBG, pour tout type de cas. Si par exemple vous avez besoin d'informations sur comment divorcer, comment acquérir un terrain, et même simplement comment poser une plainte, il est possible de se rendre dans une clinique juridique et de demander tout cela, et cela vous sera expliqué.
Donc la clinique juridique n'est pas seulement une affaire de violence basée sur le genre.
Voilà, c'est exactement ça. La clinique juridique, c'est pas qu'une affaire de violence basée sur le genre, c'est vraiment un cadre plus général et elle s'occupe de tous les cas.
Avez-vous rencontré des difficultés pour accéder à certaines informations ou rencontré des personnes clés pour votre reportage?
Alors, j'ai vraiment pas eu de difficultés. Comme je le disais tantôt, les cliniques juridiques ou les femmes des cliniques juridiques, elles sont très ouvertes, elles sont très proches des populations. Donc, déjà, elles m'ont facilité l'accès. Ça a été facile pour moi de rencontrer les membres, même les directrices de l'association, d'avoir les directrices régionales de ces différentes cliniques juridiques. J'ai vraiment pas eu de soucis. Et quand je leur ai demandé s'il était possible d'avoir des contacts de témoins, elles n'ont pas hésité. Là, tout de suite, elles m'ont passé des numéros. J'ai pu contacter ces femmes-là qui étaient tout aussi disposées à parler parce que elles avaient vécu quelque chose une expérience marquante avec les cliniques juridiques, parce que ces cliniques-là les ont aidées dans leurs différents cas. Et ce qui les a plus marquées, c'est que c'était gratuit. Donc, ces femmes-là étaient ouvertes à raconter un peu comment est-ce que ces cliniques-là leur venaient en aide. Il y avait même une dans le reportage qui disait que elle aujourd'hui, elle fait la promotion des cliniques juridiques partout où elle va, parce que cette clinique l'a vraiment aidée dans sa procédure de divorce, d'abord dans les conseils, ensuite la clinique elle-même donne des avocats. La clinique se charge de trouver des avocats pour les différents cas et ensuite de faire toutes les démarches administratives et autres, ce qui décharge véritablement les populations.
Toutes ces informations, combien de temps cela a duré la préparation de ce reportage?
Au total, 3 semaines, parce qu'il a fallu environ 1 semaine pour aller rencontrer toutes ces dames, faire le tour, recueillir les informations. Et puis après, 1 autre semaine pour faire les différents montages. Après, j'ai eu aussi besoin de temps pour contacter ces femmes-là de l'intérieur pour leurs différents témoignages, faire quelques recherches aussi sur Internet pour agrémenter le tout. Donc on dira peut-être 3 semaines ou 1 mois au plus.
Et ça a donné le résultat qu'on a suivi tout à l'heure. Un reportage que nos auditeurs pourront réécouter sur le site internet de Radio de la Paix, www.radiodelapaix, ou encore sur nos antennes 96 à Abidjan en FM ou 827 sur le bouquet Canal+. Alors Christelle, nous arrivons au terme de notre entretien. Pensez-vous que ces cliniques juridiques peuvent véritablement influencer la réforme du système judiciaire en Côte d'Ivoire?
Je pense que non, parce que c'est pas leur but. Elles ne sont pas là, ces femmes de l'association, pour changer ce qui a été établi par l'État. Au contraire, elles, leur action est plutôt tournée vers les populations. Comment aider les populations à comprendre le langage juridique? Parce que ce qu'elles ont dit, c'est que les thèmes juridiques sont très complexes. On ne comprend pas toujours ce que c'est. On comprend pas toujours. Lorsque tu vas poser ta plainte ou lorsque tu veux même aller au tribunal, tu ne sais pas toujours comment ça marche. Et elles sont là justement pour aider les populations à comprendre toutes ces procédures. Elles ne sont pas là pour changer les lois. Elles ne sont pas là pour changer les règlements de l'État. Elles veulent juste que les populations connaissent leurs droits. Et donc, elles essaient d'expliquer cela dans des termes simples et aider les populations à suivre les différents cas.
Que doivent retenir nos auditeurs et auditrices du fonctionnement des cliniques juridiques, en somme, de votre reportage?
Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que on a là une structure qui est prête à aider les populations. et surtout de façon gratuite. Moi, c'est ce qui m'a marqué le plus. Les femmes de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire, elles ont souvent des financements de certains bailleurs qui les aident à faire des projets totalement gratuits en fonction des cas, soit destinés aux femmes, soit destinés aux jeunes filles. Et au-delà de ça, pour les populations plus larges, c'est-à-dire avec les hommes et tout, avec seulement 1000 francs par an, vous pouvez aller vous faire consulter dans cette clinique juridique-là. C'est-à-dire, pendant un an, vous payez seulement 1000 francs et vous partez toute l'année avoir tous les conseils que vous voulez. Vous pouvez venir autant de fois que vous voulez pour recevoir tous vos conseils. Donc, c'est important que les gens connaissent l'existence de ces cliniques-là. C'est important. Dans cette structure, vous avez la possibilité vraiment d'avoir gratuitement un avocat pour défendre votre cas. Si c'est un cas d'agression, cela est possible grâce aux cliniques juridiques. Si c'est un cas de divorce, tout cela se fait gratuitement. Vraiment, je voudrais que ce message-là soit entendu partout et que les cliniques soient de plus en plus visitées parce que contrairement à l'intérieur du pays où les cliniques sont très connues, à Abidjan ici, on ne sait pas que la clinique juridique existe et ce qui est dommage alors qu'on a beaucoup de cas de VBG qui sont enregistrés un peu partout à Abidjan et il est important que les femmes sachent qu'en allant voir ces femmes-là, elles ont la possibilité de voir leur cas être pris en charge.
Christelle Yesso, merci.
Merci beaucoup, Mel Emmanuel.
Vous étiez dans Panorama des Régions et on espère vous recevoir à nouveau pour d'autres reportages à décrypter sur les ondes de Radio de la Paix.
Ok, merci à vous. En tout cas, je me ferai un plaisir de revenir à Panorama des Régions.
Radio de la Paix. Mieux comprendre les enjeux.
Vous êtes toujours à l'écoute de Panorama des Régions. Nous prenons maintenant la direction du centre de la Côte d'Ivoire. La région, c'est Lifou, le chef-lieu d'Aoukro, et s'y est tenue la 26e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière. François Kra, notre correspondant régional, nous en a fait un compte-rendu que voici.
Radio de la Paix.
Selon le directeur régional des transports de Lifou, Loba Akassou, la campagne mensuelle de sensibilisation de proximité porte ses fruits à Daoukro au regard de la réduction des accidents de la circulation. Mais beaucoup reste à faire pour atteindre l'objectif.
Il y a eu une nette amélioration. Cela nous réjouit de pouvoir comprendre que les efforts qui sont consentis par le gouvernement à travers la direction régionale des transports est respecté et que le résultat se fait ressentir sur le terrain. Je crois que Daoukro va marquer ce changement-là.
Les acteurs du transport ne veulent pas rester en marge de la lutte.
Gérard Ovalioué, représentant du Haut Conseil des transporteurs de Lifou. On va convoquer les producteurs de véhicules, on va les sensibiliser, leur donner des conseils, afin de aussi donner des conseils à leurs chauffeurs.
72 acteurs locaux du transport formés sur les bonnes pratiques de la conduite professionnelle, une initiative de la Mutuelle Générale des Chauffeurs de Lifou, ont reçu leur parchemin à l'ouverture de la campagne.
Touré Mamadou, président de la MUGESI. Peut-être que c'est les tricycles, les deux qui font plus de dégâts. Souvent, les chauffeurs concernant Massa Taxi, Dieu merci, c'est qu'ils sont allés faire comme formation et mettre ça en application.
Pour sa part, le préfet de Lifou, Dike Raymond Claude, recommande la rigueur aux forces de l'ordre au cours des contrôles des routines.
Et il appartient aussi aux forces de l'ordre de veiller au respect du cours de la route. Donc, c'est un travail de tous les jours.
Le bon état mécanique du véhicule, facteur d'une mobilité sûre, tel est le thème retenu pour la 26e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière. François Kra, Daoukro, Radio. Radio de la Paix.
Radio de la Paix.
Merci à vous François Kra. À votre suite, je reçois le directeur régional des transports de Lifou, Monsieur Akassou. Bonjour Monsieur.
Bonjour Monsieur.
Merci Monsieur Akassou d'être disponible pour répondre à nos questions.
Merci.
La dernière édition de la Semaine de la sécurité routière a pris fin récemment et votre direction régionale a mené des actions en ce sens. Déjà, quelle est l'importance de la Semaine de la sécurité routière pour vous?
D'autant plus que la Semaine de la sécurité routière a été mise en place depuis le 7 juillet 2021 par le gouvernement, dans le but de pouvoir réduire drastiquement le nombre de tués sur la voie. Donc, depuis lors, chaque mois, nous prenons le temps de pouvoir sensibiliser la population en vue de pouvoir les faire prendre conscience des difficultés et des risques qu'ils ont à ne pas respecter le code de la route. Donc, pour moi, la Semaine de la sécurité routière nous permet de pouvoir vraiment véhiculer ce message-là, de plus de confiance des automobiles et des usagers de la route aussi, en vue de pouvoir respecter le code de la route, respecter aussi les instructions données par le gouvernement pour pouvoir réduire le nombre de tués sur la chaîne de voie.
Pour ce mois de mars, quelles ont été les actions principales que vous avez mises en place durant la Semaine de la sécurité routière?
On a terminé le 3 mars, nous étions déjà à la gare de Mouni-Ouattara avec tous les conducteurs, tous les acteurs du transport, où nous avons pu faire le lancement avec la présence des gouverneurs de la région, et aussi le président du conseil régional. Et ils ont eu l'occasion de pouvoir vraiment parler à tous les conducteurs, les sensibiliser dans ce sens. À la suite de cela, nous avons pu aller vers tous les structures dans la ville, c'est-à-dire que les gens à 2 roues, les gens à 3 roues, les taximètres et autres, nous avons fait du corps à corps et nous avons pu parler directement avec ces conducteurs et ces chauffeurs réellement pour pouvoir les faire, comprendre les messages que cette semaine de sécurité routière nous implique, c'est-à-dire que de pouvoir avoir le bon état mécanique des véhicules, gage d'une sécurité routière très fiable. Donc, du coup, nous avons pu faire passer ce message à travers toutes les actions. Et après cela, nous avons battu vers les écoles. Nous étions déjà au lycée professionnel de Daokro, où nous avons croisé l'administration pour voir les véhicules de métal. Aussi, les élèves, les stagiaires et les étudiants aussi, nous avons pu leur faire parvenir ce message-là, de sorte à pouvoir aussi prendre conscience de cela, parce que ce sont aussi des petits cas de ce pays. Donc, du coup, les personnes-là aussi doivent vraiment être partie prenante aussi de cette lutte aussi. Voilà, nous avons pu faire toutes ces actions-là jusqu'au 10 lundi 10.
Pour chaque semaine de la sécurité routière, est-ce qu'il y a des objectifs spécifiques?
Oui. Il y a des objectifs spécifiques. Déjà, il a bien noté que pour cette semaine de sécurité routière, l'objectif était beaucoup appuyé sur le bon état mécanique des véhicules. Voilà, donc ça c'était le thème. Chaque semaine de sécurité, il y a un thème qui est développé. Voilà, pendant la semaine de sécurité, il y a un thème qui est développé. Et ce thème-là nous permet de pouvoir axer beaucoup notre sensibilisation dans ce sens-là. Parce qu'il était fort de constater que l'état mécanique des véhicules, dans les derniers mois qui ont suivi la semaine de sécurité, ont été facteurs de beaucoup d'accidents. Donc, ça allait vraiment sensibiliser dans ce sens-là.
Et vous avez parlé d'accidents. Qui sont les acteurs les plus impliqués?
Bon, déjà, comprenons que déjà les agents à 2 roues sont vraiment, à 2 roues et à 3 roues sont beaucoup, beaucoup impliqués des accidents dans notre zone, surtout dans la région de Dikou. Nous menons beaucoup d'actions sur ce sens-là parce que 60% des accidents sont causés par ces derniers-là. Donc, ces deux acteurs-là qui sont beaucoup impliqués dans les accidents. Voilà, agents à 2 roues et à 3 roues.
Chaque première semaine du mois se tient la semaine de la sécurité routière. Et depuis le début de l'année 2025, quelles sont les statistiques? Est-ce que vous avez observé des changements sur les routes?
Oui, par rapport à vous déjà, dès que l'administration, notre la direction régionale des transports a été installée officiellement le 6 janvier à Daokro, dans la région de Lifou, déjà, on nous a mené des actions déjà à Daokro pour la population, pour ne pas dire les conducteurs, les dangers à 2 roues et 3 roues. On commençait à porter des casques parce que ce n'était pas trop fréquent dans cette zone. Et chaque conducteur commence à porter ces casques-là. Pour les statistiques des accidents, déjà, on a constaté cette régression, mais on attend forcément la fin du premier trimestre pour pouvoir vraiment évaluer vraiment notre travail. Quoi.
Donc actuellement, vous êtes toujours en cours d'évaluation?
Toujours en cours d'évaluation jusqu'à la prochaine semaine de sécurité. On pourra, juste à la fin de ce mois, on pourra vraiment tirer cette statistique avec l'ONPC. Qui nous fait le point général des différents.
En Côte d'Ivoire, l'on parle souvent de l'indiscipline des conducteurs, des transporteurs. Est-ce que vous rencontrez ce défi-là dans la région de Lifou?
Oui, c'est une réalité. Aujourd'hui, je ne veux pas cacher cela parce que la jeunesse est beaucoup impliquée dedans. Voilà, donc le manque de respect des codes de la route-là est vraiment constaté. Mais avec les actions que nous menons actuellement sur le terrain, surtout avec les forces de l'ordre, pour constater qu'ils ont commencé à prendre conscience parce qu'ils savent maintenant que l'autorité tape le point de la table pour être beaucoup regardant sur tout ça et les sanctions plus automatiquement. Donc, du coup, on tient à remercier la police nationale, on tient à remercier la gendarmerie, on tient à remercier les policiers aussi qui nous accompagnent dans ce sens-là et qui font un travail de fond pour pouvoir appliquer la rigueur dans ce sens-là. Quoi.
Au-delà de la semaine de la sécurité routière, est-ce que vous prévoyez d'autres mesures pour sensibiliser les transporteurs, les usagers de la route?
Au-delà de la semaine de sécurité routière, il y a des formations qui sont déjà rendues sur même la sécurité routière, mais sur le thème de la sécurité routière, sur même, le secourisme, les premiers soins, et aussi la formation vers même les différents syndicats. C'est-à-dire qu'on va les réunir pour pouvoir le former réellement de façon pratique et de façon théorique aussi sur la sécurité routière, sur même leurs engins, même l'entretien des engins, sur les premiers soins avec l'appui de l'ONBT. Voilà, donc ce sont des actions qui seront menées après la sécurité routière. On va initier des sessions de formation. Ils sont déjà prévus déjà pour le mois de avril déjà.
Monsieur Akassou, nous arrivons au terme de notre entretien. Oui. Que recommandez-vous aux usagers de la route en général?
Déjà, je dirais que à toute la population, il faut que la sécurité routière, c'est une affaire de tous. L'État met les moyens et fait son effort de pouvoir appuyer cela à travers le ministère du Transport et la direction aux gens du transport pour pouvoir permettre à ce qu'il y ait moins de sujets sur la voie. Donc, à eux aussi, de leur côté, de pouvoir faire un effort de respecter ces restrictions-là pour permettre à ce que chacun repasse à ses occupations le matin et revient de pouvoir trouver sa famille en bonne santé, en bon état. Donc, c'est ce que je pourrais dire à la population de l'IFO.
Merci beaucoup, M. Akassou. Et je rappelle que vous êtes le directeur régional des transports de l'IFO.
Effectivement.
Merci beaucoup. Excellente journée à vous.
Merci beaucoup et bonne journée à vous.
Merci.
Radio de la Paix. Se parler. S'écouter. Se comprendre.
Nous voici au terme de notre bilan de l'actualité régionale. La semaine prochaine, nous nous retrouverons toujours sur Radio de la Paix, 96 FM à Abidjan, 827 sur le bouquet Canal+, et www.radiodelapaix.ci sur le web. À bientôt!
Panorama des régions. Panorama des régions pour un tour d'horizon des faits marquants toutes les semaines avec nos journalistes en région.